Voilà, bien, nous allons à présent ouvrir la parole du Seigneur et je vous propose de faire une première lecture, dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, au verset 21, où il est question d'un homme qui a vécu fort longtemps. Voilà, Genèse, chapitre 5, verset 21. Il est dit ceci: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah, ou Mathusalem. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Voilà. Et puis nous allons aller à l'autre extrémité de la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 5. Voilà, Hébreux chapitre 11, verset 5, dans lequel passage il nous est dit ceci, Hébreux chapitre 11, verset 5, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. » Et un dernier passage dans l'Épître de Jude, ce trouve juste avant l'Apocalypse, ne compte qu'un seul chapitre. Donc nous lisons au verset 14 de cet unique chapitre de l'Épître de Jude. Jude était un frère, selon la chair, du Seigneur Jésus. Jude, verset 14, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Amen. » Voilà donc ce personnage que nous présente la parole de Dieu, Enoch. Enoch, ça veut dire initié ou consacré à Dieu. Quatre éléments le caractérisent, ce personnage. Sa persévérance. Il a marché avec Dieu, nous dit le texte, 300 ans. Hein? Parfois, nous glorifions de marcher avec le Seigneur depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus. Mais dites donc, à côté de lui, même les plus anciens, nous sommes des petits genoux. Hein? Il a marché avec Dieu 300 ans. Sa persévérance, malgré un contexte défavorable, qui dit mieux? 300 ans de marche avec Dieu. Sa foi ferme, dont il est question dans l'Épître aux Hébreux, parce que s'il fut enlevé, eh bien, ce fut le résultat, la conséquence, le produit de sa foi. En qui? En quoi? En la grâce de Dieu. L'esprit prophétique qu'il animait, parce que c'est par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qu'il a pu, eh bien, avoir cette révélation de la perspective à venir, de tout ce qui allait se produire dans un avenir fort lointain quant à lui-même, puisqu'il parle déjà du jugement de Dieu à la fin des temps. Et puis, quatrième élément, évidemment, son enlèvement. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà, sans passer par la mort, sans connaître le trépas, Voilà que Dieu l'a enlevé glorieusement dans sa présence bénie dans le ciel. Et on peut trouver dans ces éléments-là, peut-être on ne les verra pas tous en détail, matière à réflexion. Son exemple doit nous stimuler. Le climat moral de l'époque dans laquelle Enoch évoluait était un climat moral déplorable. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, au verset 5, eh bien, il est dit ceci: « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Voilà quelle était la situation globalement. Vous voyez, Enoch n'était pas tout à fait contemporain de Noé, c'était la génération juste avant, mais déjà la situation morale de l'humanité s'était fort dégradée. Et malgré ce contexte défavorable, Enoch a tenu bon, Enoch a persévéré. Malgré la corruption généralisée, il faisait partie de cette catégorie d'individus qui se distinguent, qui sont différents, qui, si je puis dire, poussent comme des lys sur un tas de fumier. Vous voyez ? Et je crois que la situation globale de notre monde, vous en conviendrez, est semblable aujourd'hui. Nous entendons, nous lisons dans les journaux, dans les médias, des déclarations parfois de responsables politiques qui nous renversent, n'est-ce pas ? Tellement leur notion du bien et du mal sont complètement chamboulées, et nous nous rendons compte que le monde, si je puis dire, va droit dans le mur parce qu'il se détourne de plus en plus des règles morales les plus élémentaires. Eh bien, nous vivons une situation comme celle d'Enoch. Mais voyez, Enoch, malgré tout, lui, il a tenu bon, il a été différent. Ça doit être notre cas. Nous, chrétiens, nous ne devons pas nous laisser corrompre, nous laisser contaminer par l'atmosphère corrompue de ce monde, mais nous devons nous distinguer. L'Écriture dit, c'est Jésus qui le dit dans l'Évangile de Matthieu, que nous sommes le sel de la terre. Vous savez que le sel a cette caractéristique de combattre la corruption. Pourquoi est-ce qu'on sale les viandes, hein, les jambons, les saucissons? Parce que le sel empêche la corruption. Et lorsque Jésus dit que nous sommes le sel de la terre, eh bien, il fait partiellement, tout au moins, mention à cette propriété du sel. Vous voyez, nous devons être des anticorrupteurs, des anticorruptions, et nous devons briller là où règnent les ténèbres, et nous devons manifester une pureté de mœurs, de paroles, de conduite, de comportement, là où la corruption règne dans ce monde. Il faut qu'au sein de nos familles, il faut que dans notre quartier, il faut que vous, frères et sœurs, dans votre contexte professionnel, vous puissiez être, nous puissions être, le sel de la terre, comme le fut en son temps Enoch. Enoch marcha avec Dieu. Et oui, pour marcher avec Dieu, il faut d'abord entreprendre cette marche, mais il faut ensuite également la poursuivre inlassablement jusqu'au bout. Dites donc, 300 ans de marche fidèle avec Dieu. Ça tient une demi-phrase, mais vous vous rendez compte, essayez d'analyser ça. Il marcha 300 ans avec Dieu, jour après jour, minute après minute. Je pense que dans sa vie comme dans la nôtre, il y a eu des moments euphoriques, des moments de bonheur, des moments de joie, des moments d'allégresse, des moments où tout était merveilleux, où le soleil brillait. Mais certainement, il n'a pas fait exception à la règle en la matière. Il y a eu des jours sombres, des jours difficiles, des jours d'épreuve, des jours où Enoch n'y comprenait plus rien. Ou peut-être s'est-il posé des questions en disant « Mais où est Dieu dans tout cela ?» Mais cependant, voyez-vous, il a marché avec Dieu pendant 300 ans, jusqu'au bout. Et ainsi, sa marche, eh bien, c'est terminé de la bonne manière, puisque Dieu l'a enlevé. C'est la promesse que Jésus nous a faite, n'est-ce pas ? Alléluia ! Vous y croyez, la promesse du retour de Jésus ? Ou alors, est-ce que nous vivons au jour le jour en disant, bof, on verra bien, hein? Non, il faut tenir ferme sur ce point. C'est l'objectif, vous voyez, c'est comme une lumière dans la nuit vers laquelle je me dirige. Jésus a dit, voilà, je m'en vais, mais rassurez-vous que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je reviendrai vous chercher, je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Quelque chose comme l'aventure d'Enoch nous arrivera. Un de ces jours, Jésus paraîtra sur les nuées du ciel. Alléluia. Les croyants vivants, à ce moment-là, seront enlevés dans la gloire. Et les croyants décédés, entre-temps, seront ressuscités. Et ils entreront, eux aussi, dans le royaume éternel. Enoch fut agréable à Dieu. C'est écrit, nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux. Agréable à Dieu. Il a reçu son approbation. Il a reçu sa faveur. Dieu trouva son plaisir en lui. Voyez ? Du fait de sa marche fidèle. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher, cheminer avec Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, que Enoch vivait dans une relation, une communion authentique avec son Dieu. Pour qu'il y ait communion, il faut qu'il y ait accord des deux parties, voyez ? Il y a un texte dans le livre du prophète Amos, chapitre 3, verset 9, si vous voulez la référence, qui dit ceci. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ?» Voilà. Il faut qu'il y ait une décision conjointe. Je marche avec toi et toi tu marches avec moi. Et le texte que nous avons lu dans le livre de la Genèse nous dit que après la naissance de son fils, Methuselah, Enoch marcha avec Dieu. Alors, je ne veux pas tordre le sens des Écritures, mais il semble, ce texte, nous dire que avant la naissance de son fils, il ne marchait pas avec Dieu. Puisqu'il est dit qu'il a marché avec Dieu après la naissance de son fils. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le texte ne nous le précise pas, à propos de la naissance de son fils. Mais il s'est passé quelque chose de fondamental, de capital, de décisif, c'est pas, dans la vie d'Enoch, qui fait qu'à partir de ce moment-là, il a marché avec Dieu. On peut parler, même si c'est le langage du Nouveau Testament, d'une conversion. Comment s'est-il converti ? En quelles circonstances ? De quelle manière ? Nous ne savons pas. L'important, voyez-vous, quant à la conversion, plus que la manière, c'est le résultat. Il y a des gens qui ont une conversion fracassante. Dans les pages du Nouveau Testament, nous avons par exemple le cas de Saul de Tarse. Ce n'est pas courant quand même. Le Seigneur lui apparaît. Alors qu'il est en route pour persécuter les chrétiens, paf, il se retrouve les quatre fers en l'air, dans la poussière, sur le chemin. Jésus lui parle, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il se convertit, il est transformé, retourné le bonhomme comme une crêpe. C'est glorieux, il y a vraiment quelque chose de très particulier. Et puis vous avez un homme comme Matthieu dans les évangiles. Jésus passe devant lui, Matthieu c'est un fonctionnaire. Au service de l'occupant romain, il encaisse les taxes, voyez. Jésus passe, lui dit, Matthieu, suis-moi. L'Écriture dit que cet homme, il se leva et le suivit. J'ai envie de dire, un point, c'est tout. Voyez, spectaculaire d'un côté, beaucoup plus simple de l'autre, mais je le répète, ce qui compte, ce n'est pas la façon, ce n'est pas le comment, ce n'est pas de quelle façon, c'est le résultat. Je me souviens de ce temps, j'étais encore jeune, fort jeune, j'étais un adolescent, je venais de m'être engagé avec le Seigneur depuis peu, et j'étais assez perplexe, vous voyez, parce que j'entendais des témoignages du style, voilà, j'étais un alcoolique, j'étais un drogué, j'étais un délinquant, et puis un jour on m'a prêché l'Évangile, et puis je me suis converti, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, etc., j'ai renoncé à la drogue, à la débauche, à l'alcool, et tout cela. Et moi, j'ai rien vécu de semblable. Je ne me suis jamais drogué, j'ai jamais fumé même une cigarette, même pas la moitié d'une, ouais, j'ai jamais été en boîte de nuit. Alors en entendant ces témoignages, j'étais troublé, je me disais, mais mon gars, t'as raté une case toi, sûrement, hein. T'es passé à côté de quelque chose, t'as pas dû assez pécher pour faire ensuite un bon chrétien. Mais c'est un raisonnement stupide ça. Et j'ai fini par comprendre, vous l'avez compris tout de suite, moi il m'a fallu un peu de temps, hein. Qu'il n'était pas nécessaire d'avoir traîné sa vie dans la boue, dans la corruption, dans la souillure, pour faire ensuite une belle conversion et un bon chrétien. Non, ce n'est pas une gloire d'avoir trempé sa vie dans la misère, oui ou non ? Et tous ceux qui en témoignent, eh bien, le disent avec beaucoup d'émotion, parce que ce passé leur fait honte. Béni soit Dieu pour les jeunes parmi nous, que Dieu a préservé, alléluia, les souillures de ce monde. Restez comme ça, n'allez pas voir ailleurs, et donnez votre vie à Jésus sans tarder, pas la peine de vous brûler les ailes au feu trompeur de ce monde. Venez à Jésus, vous en avez de toute façon suffisamment fait pour que si vous en restez là, vous soyez dignes de la condamnation et du jugement de Dieu. Un seul péché nous disqualifie totalement aux yeux du Seigneur, voyez. Quand bien même vous auriez une moralité exemplaire, mais que vous n'auriez commis, par le cas, qu'une seule faute, qu'un seul péché, à cause de ce péché-là, vous êtes indigne d'entrer dans le royaume de Dieu, car l'Écriture dit que dans le ciel, rien, rien, c'est quoi rien? C'est rien. C'est rien de rien, rien de souillé ni d'impur n'entrera. Donc mon ami, même si tu n'as pas traîné ta vie dans la boue, tu es un pécheur et tu dois te repentir et demander pardon pour recevoir le salut. Alléluia. Je me souviens de ces temps dans les colos, d'autres en ont vécu, hein, où nous avons vu les larmes de la repentance pleurer sur les joues des gamins. Pourtant, qu'avaient-ils fait? Ils n'avaient pas vécu dans la débauche, ils n'en étaient pas là encore. Mais voyez, là, le Saint-Esprit les convainquait que tout enfant qu'ils étaient, ils étaient coupables, ils étaient pécheurs et ils devaient se repentir. Et béni soit Dieu lorsque ça se produit. Alors Enoch est converti, j'étais en train de parler de la repentance, je me suis un petit peu éloigné. Ce n'est pas ce qui est important, ce n'est pas le comment, ce n'est pas la façon, ce qui compte, c'est le résultat. C'est l'aboutissement de cette rencontre, cette marche, cette relation avec Dieu, voyez, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà, on a marché 300 ans avec Dieu, les bons, les mauvais jours, les jours fastes, les jours catastrophiques, les jours dramatiques. Ça ne vous est pas arrivé, ça, de dire, oh là 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 là, cette journée, si je pouvais, je l'aurais rayée du calendrier, hein. J'aurais pas voulu la vivre, mais voilà, je l'ai vécu. Et je l'ai vécu quand même, avec le Seigneur. Même si je n'ai pas eu conscience de sa présence, il était là et il a veillé sur moi, jour par jour. Il a marché avec Dieu 300 ans. Agréable du fait de sa foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Des gens parfois m'ont dit, ah monsieur, je vous envie, je voudrais avoir votre foi. D'abord, elle n'est pas si grande que ça. Et puis, si vous en voulez, elle est à votre disposition. Parce que c'est Dieu qui la communique à notre cœur, par sa parole et par son esprit. La foi, je dirais, c'est voir l'invisible. Vous voyez ? C'est accorder plus de valeur aux choses invisibles qui sont éternelles qu'aux choses visibles qui sont temporaires. De tout ce que nous voyons, tout passera. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, il est dit que l'univers, eh bien, sera consumé, sera détruit par une déflagration terrible, voyez, hein. Pourtant, les apôtres qui ont écrit ça, ils ne savaient pas ce que c'était que la bombe atomique. Eh bien, il y aura une explosion universelle qui fait que cet univers matériel dans lequel nous évoluons actuellement, vous et moi, sera réduit à zéro. À néant. Et Dieu formera, reformera de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Donc, tout passera. Seuls subsistent les valeurs éternelles. Vous y croyez au ciel? Eh oui, mes amis, c'est une réalité et c'est le but. Il ne fut plus Enoch parce que Dieu le prit. Où ça? Où ça? Dieu n'a pas mené faire un stage au purgatoire. Non, 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 non. Dieu l'a pas amené dans une espèce de salle d'attente en disant, écoute, attends 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, puis on verra. Dieu l'a pris avec lui, dans sa présence glorieuse. Le ciel, j'y crois, amen. J'y crois. Et c'est le but. Et moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais je sais comment je suis, en tout cas un petit peu. Et souvent, je dis au Seigneur, mais Seigneur, mais c'est que je veux y aller là-haut. Alors à tout prix, Seigneur, guide-moi. Et si un temps soit peu, je m'écarte. Eh bien, explique-moi le tarif pour que je recadre ma vie parce que je veux finir dans le ciel. C'est le but, mes frères et sœurs, que nous devons poursuivre. Et c'est la foi. Pour nous, chrétiens, la foi est un objet, un sujet. Jésus, il est le sujet de ma foi. Amen. Il est le sujet de ma foi. La foi, c'est pas croire en n'importe qui, n'importe quoi. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'illusion. Les gens disent, moi, j'ai pas la foi. J'ai un grand-oncle dans les ordres. Moi, j'ai pas la foi, mais ma grand-mère m'a appris à réciter le Notre Père. Mais vous pouvez réciter le Notre Père tant que vous voudrez. C'est pas ça, la foi. La foi, c'est placer sa confiance à la personne de Jésus, au point que nous lui avons voué notre vie. Nous lui avons livré notre vie. Il est le fondement de notre foi et il saura la conduire à son achèvement ultime. Ce n'est que par lui, Jésus, mort, ressuscité et intercédant pour nous, que nous pourrons atteindre le cœur du Père. Est-ce que tu veux aller au ciel? Mets ta foi en Jésus, avec tout ce que cela se représente. Vous savez, la foi, ce n'est pas un simple sentiment religieux, une émotion passagère et furtive, de courte durée. Il y a des gens comme ça, ce sont des sentimentaux, vous voyez. Alors, il suffit qu'il y ait, je ne sais pas moi, les grandes orgues qui jouent, il n'y en a pas ici. Oh, leur âme se lève, et puis après, elle dégringole leur âme. Non, c'est plus sérieux, c'est plus solide que ça. Jésus dit qu'il y a cette catégorie d'individus qui croit pour un temps. Pour un temps. 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Mais il succombe au moment de la tentation, au moment de l'épreuve. Amis, frères et sœurs, l'heure de l'épreuve, l'heure de la tentation, elle sonnera dans ta vie. Et il est important que tu te mettes en garde. L'Écriture nous dit qu'il ne faut pas s'étonner de la fournaise par laquelle nous sommes appelés à passer, nous, chrétiens. Voyez, notre foi, pour être vérifiée, validée, reconnue comme authentique, comme sérieuse, comme digne de foi, si je puis dire, elle a besoin d'être testée, d'être éprouvée, comme le métal est éprouvé par le feu. Et il y a des gens dans l'épreuve, ils craquent, ah, où il est Dieu dans tout ça? Mais il est là. Vous savez, dans la fournaise, là, les 3 compagnons de Daniel, il y avait un 4e personnage. Le roi, il l'a vu, il a dit, ah, on en a jeté 3, il y en a 4. Et le 4e a la figure d'un fils des dieux. Il se trompait un petit peu dans sa conjugaison. Ce n'était pas un fils des dieux, c'était un fils de Dieu qui marchait dans la fournaise avec les 3 autres. Et ils en sont sortis indemnes. Oui, tu vas traverser l'épreuve, et moi aussi. Oui, quand on a marché quelques années avec le Seigneur, pas 300 ans, mais quelques années, on se retourne et on dit, waouh, il y a des moments, ça a été un peu chaud. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, mais comment j'ai pu passer au travers de ça? Comment j'ai pu tenir le coup? Comment j'ai pu résister à la force du poignet? Par ma détermination, mon caractère fort, bien trempé, non. Par la grâce de Dieu qui m'a fait tenir bon. La foi, c'est une manière de vivre qui nous engage sur la durée, dans une direction, une orientation vers un objectif. Un but, je le répète, aller au ciel. C'est primaire, c'est élémentaire, cette question que je vous pose ce matin. Mais je vous la pose et la repose et la re-repose encore. Voulez-vous aller au ciel? Ça ne suffit pas d'avoir été plongé dans le baptistère. Ça ne suffit pas toutes les semaines de venir s'asseoir sur ces chaises. Ça ne suffit pas de participer, même avec le plus grand sérieux du monde, à la Sainte-Seine. Il faut qu'on poursuive, qu'on aille jusqu'au bout. Enoch marcha. 300 ans avec Dieu. 300 ans avec Dieu. La foi est faite de persévérance, de constance. J'aime ce texte de l'Épître aux Hébreux. Je vous l'ai lu plusieurs fois, et bien je vous le relis encore une fois. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, voilà ce qui est écrit au verset 36. Voilà, Hébreux chapitre 10, verset 36. Qu'est-ce qui est dit là? Même verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Ma traduction à moi, c'est ne laissez pas tomber. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance. Voyez, nous y sommes. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qui nous promet le ciel, le Seigneur? L'épître de Jean nous dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Afin que vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, dit le Seigneur, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Alléluia! Il viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Et vous avez remarqué, la foi est en relation dans ce texte avec la persévérance. Mais s'il se retire, s'il revient en arrière, s'il renie sa foi, s'il renonce à son engagement initial, mon âme, c'est le Seigneur qui parle, ne prend pas plaisir en lui. Nous, j'aime cette déclaration. C'est fort, c'est vigoureux, c'est décisif, c'est déterminant. Nous, toi, moi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. De cette qualité de foi qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Voilà. Je pourrais ajouter ce texte de l'Épître aux Philippiens. C'est l'apôtre Paul qui parle lui aussi de sa façon dont il voit les choses, dont il conçoit sa vie, dont il mène son existence de chrétien, de croyant. Et il dit ceci, Philippiens chapitre 3, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais non, on n'y est pas encore, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, alléluia, lui fait plus que marcher, il court, dites, je cours, pour tâcher de le saisir, ce prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, il ne doute pas de son salut, pas du tout, mais il dit que il faut y aller jusqu'au bout, quoi. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je fais une chose. Il sait ce qu'il veut, voyez. Il sait ce qu'il veut. Il y a des gens, ils courent plusieurs lièvres à la fois. Ils disent, ouais, le ciel, c'est pas mal, mais quand même, vous savez, frère, il y a des choses sur la terre qui sont bien agréables. Alors, on peut peut-être jouer sur les deux tableaux. Le Seigneur ne nous demande pas de vivre comme des ascètes, des ermites dans la montagne. Mais enfin, à trop flirter avec la valeur de ce monde, on risque de perdre de vue les choses essentielles. On risque, n'est-ce pas, de loucher un petit peu si on vise deux objectifs à la fois. Paul nous dit, je fais une chose. Il ne se réfère pas là à son ministère, voyez, mais à sa vie de croyant, parce qu'il a conscience que, avant même d'être un apôtre du Seigneur, et quel apôtre, avant même d'être équipé surnaturellement par les dons de l'Esprit pour exercer son ministère, il est un croyant de base. On est tous des croyants de base. Tous au même niveau. Et il dit, je fais une chose. Je fais une chose. Je poursuis un but. Je cours pour tâcher de saisir ce prix de la vocation céleste de Jésus-Christ. C'est cet état d'esprit qu'il nous faut avoir. Oui. On ne peut pas mener la vie chrétienne en dilettante. Hein? Voilà. Quand on fait du shopping, les dames surtout, mais les messieurs aussi, hein, du magasinage, comme disent les Canadiens. Hein? Vous savez, on marche, là, tranquille, puis on s'arrête devant une vitrine, non? Pas comme ça? Puis on fait trois pas de plus, on s'arrête devant une autre. Et il y a des gens, ils mènent leur vie chrétienne comme ça, en dilettante. Mais non, mes amis, c'est trop sérieux. Parce que si c'est pas le ciel qui m'attend, c'est quoi? Eh oui! S'il est vrai qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à recevoir en partage, Ça vaut le coup de se donner les moyens, qu'en pensez-vous? De tenir ferme, de tenir bon. Alors Paul dit là dans ce passage, oubliant ce qui est en arrière et me portant, littéralement le texte dit, je crois, hein, les spécialistes du grec me le confirmeront, emporté en avant, penché en avant, oubliant ce qui est en arrière. En arrière, il y a des expériences positives. Il ne faut pas que les expériences positives que nous avons vécues avec le Seigneur nous amènent à nous endormir sur nos lauriers. Oh, tout va bien. Dieu m'a béni hier. J'ai senti sa présence. Il m'a fait du bien dans la prière. Alléluia. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Pas s'endormir sur ses lauriers. Une expérience de conversion, aussi remarquable soit-elle, ne nous garantit pas l'avenir d'une manière absolue. C'est pour ça que tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, il était écrit « Après avoir accompli la volonté de Dieu, il faut que vous obteniez finalement ce qui vous est promis. » Des fois, je me suis posé des questions. J'ai vu des gens réaliser des expériences remarquables, mais qui parfois, hélas, j'en ai toute une collection dans ma vie. Et je pense à eux souvent, avec tristesse. Des gens qui ont chaviré. Des gens qui avaient l'air tellement prometteurs. Des gens qui avaient vécu des choses tellement fortes, mais fortes, avec le Seigneur et qui ont dégringolé. Seigneur, tiens-moi ferme. Je ne veux pas finir comme ça. Alors, il y a les expériences positives derrière. Il y a aussi des expériences négatives. Elles ne doivent pas nous décourager au point de nous arrêter. Tu es tombé, tu as chuté, tu as failli à ton engagement, tout n'est pas fini pour autant. Dieu te tend une main secourable. Il y a un texte dans le livre des Psaumes, j'essaie de le citer de mémoire, qui dit « S'il tombe, le croyant, il n'est pas terrassé parce que l'Éternel lui prend la main. » J'aime ça. Quand je tombe, quand je faiblis, je vous assure, ça m'arrive. Le Seigneur ne me met pas le pied par-dessus. Ça, c'est le diable. Il ne veut pas qu'on se relève. Mais le Seigneur me tend la main pour me relever. Tant de fois, il m'a relevé. Il a fait miséricorde. Et quand je dis « Jésus, j'ai été misérable, fais-moi grâce », eh bien, il pardonne. Alléluia. Il relève. Voyez, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, je vous cite ces textes un peu en vrac, excusez-moi, il est écrit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, ayant les regards fixés sur Jésus. » Voyez, on le disait tout à l'heure, c'est le sujet, l'objet de notre foi, le péché. Le péché, mais mon ami, le péché, ça t'arrête net. Ça interrompt la marche. Le péché, ça peut être l'attrait du monde, de ses convoitises matérielles ou charnelles. Il y a parfois des gens qui tournent autour de nous et qui voudraient bien, c'est vrai ou pas, allez, rêvons pas. Vous entraînez du mauvais côté, ça vous est arrivé, moi aussi. Le monde et ses jouissances trompeuses. Le monde et ses plaisirs factices, frivoles, illusoires, tout n'est pas interdit. Mais je le disais tout à l'heure, on ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Jésus disait d'une manière très catégorique, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Vous savez, Mammon, c'est la richesse et l'argent, c'est le matérialisme, c'est tout ça. Tu ne peux pas servir les deux maîtres à la fois. Dieu pourvoit à nos besoins. Moi, je suis émerveillé pour ce que Dieu a fait pour nous, pour moi, même sur le plan matériel, vous voyez. Mais il ne faut pas y attacher notre cœur outre mesure. Ce n'est pas ça l'important. Béni soit Dieu si tu as un bon fauteuil en cuir, bien confortable. Béni soit Dieu si tu peux rouler en Mercedes, même en Cadillac. Mais ce n'est pas ça l'important. C'est une caisse de ferraille, la Cadillac. L'important, c'est ton âme. L'important, c'est le ciel. L'important, c'est l'éternité avec laquelle nous avons rendez-vous. Oui. Et puis, sans parler de péché, les fardeaux, les soucis, les épreuves, les tentations, les persécutions. Tenez, l'Épître aux Hébreux, on médite sur l'Épître aux Hébreux le vendredi soir, ces temps-ci. Voyez ? L'Épître aux Hébreux, initialement, s'adressait à des gens qui, justement, vivaient dans un contexte de persécution, leur faisait tout plein de misère. Parce qu'ils étaient juifs d'origine, ils s'étaient convertis à Jésus. Alors, leurs anciens collègues, là, essayaient de les tracasser pour les faire revenir à la foi israélite, aux observances de l'Ancien Testament. Et certains étaient un petit peu chavirés, là. Pour éviter les problèmes, ils étaient sur le point de revenir en arrière. Non, non. On te fait des misères dans la famille, au boulot, t'en prends plein la tête, parce que t'es chrétien, te traite peut-être de petit curé ou je sais pas quoi. C'est le tarif, ça. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Les soucis ne doivent pas nous arrêter. On peut parfois, c'est vrai, être tenté d'abandonner la marche. C'est trop dur. Revenir en arrière, cesser ce combat tellement il est âpre, dur, tellement le chemin est étroit. Jésus l'a dit, mais je ne savais pas qu'il était aussi étroit que ça. Hein. Dans le psaume 73, le psalmiste, et pourtant ce n'est pas n'importe qui, c'était un chef de chorale, Asaph, du temple de Jérusalem. Un homme de Dieu, rempli de l'esprit. Mais il a vécu une période... une période noire, une période sombre dans sa vie. Il disait, je portais envie aux insensés. Mes pas étaient sur le point de glisser. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Misère, tout le réussi. Et moi, rien ne marche. J'y comprends rien. Alors il comprend rien jusqu'à ce qu'il pénètre dans les sanctuaires de Dieu. Voyez ? Il ne faut pas s'étonner, s'effaroucher des difficultés. Je le disais, je le répète, la foi, elle a besoin d'être vérifiée, testée, éprouvée, épurée comme un métal précieux pour être reconnue par le Seigneur comme authentique et réelle. Alors en conclusion, Asaph, vous voyez, psaume 73, vous lirez ce texte, dit Seigneur, mais revenir en arrière, te trahir, te renier, non, ce n'est pas possible. Même si ces gens-là qui vivent sans foi ni loi, ils semblent avoir la réussite et moi je ne l'ai pas. Seigneur, je me souviens que tu m'as saisi la main droite, que c'est beau. Tu me conduiras par ton conseil et puis tu me recevras dans la gloire. Voyez, toujours le but, le ciel, l'éternité, la présence de Dieu. Alors il conclut et il dit, Asaph, là, psaume 73, « Eh bien, Seigneur, voilà, hein, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. » Je traduis à ma manière, je peux en voir de toutes les couleurs. Mais Dieu sera toujours, toujours le rocher de mon cœur et mon partage, car ceux qui s'éloignent de toi périssent. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Et mon partage. La persévérance, laissez-moi terminer, elle va de pair avec la fidélité. Qu'est-ce que c'est que la fidélité ? C'est la constance dans l'amour. Un mari fidèle à son épouse, il est fidèle, eh bien parce que il continue de l'aimer. Et même si d'autres lui font les yeux doux, ça peut arriver, il aime sa femme. D'une manière absolue, authentique, exclusive, et il continue de l'aimer. C'est la fidélité. Et c'est la question qui se pose aussi pour nous. Pierre, m'aimes-tu ? Dira Jésus à l'apôtre. Église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Par contre, l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse, c'est l'Église fidèle. Par opposition à Laodicée, qui est l'Église apostate, l'Église qui a renoncé à la vraie foi, qui est tiède. Et cette Église de Philadelphie, eh bien le Seigneur lui dit, retiens ce que tu as. Retiens, garde-le. Accroche-toi, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. La couronne, elle nous attend dans le ciel. Amen. Alléluia. On sera tous couronnés. Hein? Plus magnifiques les uns que les autres. Oh, toi, regarde, tu as 3 diamants. Moi, j'en ai 4. Hein? Et l'autre, il en a... La couronne. Alors, comment tenir bon? Je finis. Comment persévérer et finalement y arriver? Comment être sûr que aujourd'hui je suis bien disposé, plein de bonnes intentions? Comment être sûr que ce sera le cas demain? Comment? Notre sécurité, elle est en lui. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit quand même, vous voyez, la parole, elle n'oublie rien, hein, ayant les regards sur Jésus. Il est ma sécurité. La prière. À Gethsémané, Jésus prie. Il ne fait pas une petite prière de katsu, là. Il prie, c'est un combat. C'est une guerre intérieure. Il faut qu'il triomphe de sa propre volonté pour accomplir la volonté du Père. Et il finit par dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Père, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il prie, il combat et il triomphe. Les autres, ils dorment. Et ils défaillent. Pourtant, ils avaient été avertis. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pierre et tes collègues, l'esprit est bien disposé. Bien sûr que vous êtes plein de bonnes intentions, mais ça ne suffit pas. La chair est faible. Ce qui était vrai pour eux, c'est vrai aussi pour nous. Seigneur, aide-nous à veiller et prier, à prier pour pouvoir veiller. La prière, c'est celle du cœur, la vraie. Parce que dans le temple de Jérusalem, il y avait 2 hommes qui priaient, le publicain et puis le pharisien. Le pharisien dit, ah Seigneur, je suis un gars formidable. Il n'y en a pas beaucoup des comme moi. Hein. Je suis juste, je jeûne 2 fois par semaine. Nous, on jeûne 2 fois par mois et il y en a du mal. Hein. Mais lui, je donne la dîme de tous mes revenus. On est comme si chacun donnait la dîme, oh là là. Eh bien, rien du tout, ça vaut. Le publicain se frappe la poitrine, il dit, oh Dieu, fais-moi grâce, sois apaisé envers moi, vous voyez. Il prie, c'est son cœur qui parle. Et Dieu le bénit, le justifie. Et oui. Et puis, la prière, c'est quoi? C'est être avec lui. Marc, chapitre 6. Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. C'est chercher Dieu. Est-ce que vous connaissez la joie de goûter à la présence de Dieu? C'est ça qui est important. Des fois, je vous avoue, je fais ma prière, je fais mon staff, j'ai prié. Tranquille, hein, j'ai fait mon devoir, Seigneur. Hein. Mais je n'ai pas vraiment cherché Dieu. Et d'autres fois, waouh! C'est de ça dont j'ai besoin. C'est ça qui fortifie mon âme. La prière, et puis la parole. Romains chapitre 10, on parlait de la foi. Verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais encore faut-il ne pas se contenter de l'écouter ou de la lire. Jacques dira que celui qui va de l'avant, c'est celui qui plonge ses regards dans la parole et qui ensuite se met à l'œuvre, se met au travail, se met, excusez-moi l'expression, au boulot, spirituellement parlant. Lui, il est heureux dans son activité. Tout ça, ce n'est pas un devoir religieux. Un désir de progresser, d'aller de l'avant. Je ne veux pas juste faire le minimum syndical pour éviter les soucis. Hein? C'est vrai, il y en a, ils seront sauvés comme au travers du feu. Mais enfin, des fois, ça a tellement senti le roussi qu'ils ont fini par basculer du mauvais côté. Hein? Non, je veux être sauvé, si je puis dire, avec les honneurs. Le ciel, et que le Seigneur puisse nous accueillir, vous accueillir, m'accueillir, en nous disant, c'est bien. bon et fidèle serviteur. Vous vous rendez compte? Entendre Jésus vous dire, me dire, simplement ça, c'est bien, mais je fonds, moi. C'est bien, mais Seigneur, j'ai rien fait d'extraordinaire, des choses formidables, j'aurais voulu en faire. J'en ai pas fait. Mais Seigneur, si tu me dis, c'est bien, si c'est toi qui le dis, ça fait rien si les autres y pensent ce qu'ils pensent, Seigneur. C'est ça que je veux poursuivre. Que Jésus soit content. C'est bien. Bon et fidèle serviteur, entre. Entre dans la joie de ton maître. Alors, conclusion. Hein, ça fait 3 fois que je conclue, mais enfin. J'en ai assez, moi. Des défections, des reniements. Ça brise mon cœur et certainement beaucoup plus que le mien, celui de Jésus. Des gens qui font un petit bout de chemin avec le Seigneur et puis, pouf, ils s'évaporent. Oh non, pourtant on leur a dit, misère, on leur a fait la leçon, le baptême, c'est un engagement sérieux, solennel, sacré, définitif. Il y en a assez de défections. Et vous savez, ça peut se produire à tout âge. Tout âge. Quand on perd de vue le but, le ciel. J'ai vu des gens d'un certain âge et même d'un âge certain décrocher dans la foi. J'ai vu des jeunes aussi décrocher dans la foi. Alors aux aînés, le Seigneur dit encore un peu de temps. Alléluia. Il y en a moins à faire que ce qui n'a été fait. Il y en a moins devant que derrière. Mon frère, ma sœur, t'as marché 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être avec le Seigneur. Continue jusqu'au bout. La victoire n'est pas acquise tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée. Hein? Au Tour de France, c'est comme ça. Même si le gars il s'arrête 1 mètre avant, il est disqualifié, oui ou non? Mais pour nous, c'est pareil. Et puis pour les jeunes, la vie devant soi. Restez près de Jésus. Les gars, les filles, restez près de Jésus. C'est le bon berger qui veille sur ses brebis, qui ont entendu sa voix et qui le suivent. Et s'il y a des moments dans la vie, ça peut arriver, où vous sentez fléchir, la pression semble tellement forte, forte, mais forte. Il y a peut-être, allez, parlons clair, l'appel de la chair, les sollicitations extérieures. Quand vous sentez que vous allez chavirer du mauvais côté, faites ce que Pierre a fait alors qu'il était en train de sombrer. Vous savez, il marchait là sur les flots. Et il a eu peur, le vent, la mer, tout ça. Il a commencé à enfoncer. Alors il a fait sa prière. Ah non, il n'a pas fait sa prière en disant, Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce, je te glorifie parce que tu es le sauveur de mon âme. Alors, s'il te plaît, je te demande maintenant de bien vouloir me venir en aide parce que j'ai besoin de... Non, un cri du cœur. Seigneur, sauve-moi! Et Jésus a étendu la main et l'a remis dans la barque. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire pour toi. C'est ce qu'il veut faire pour nous. Amen. Peut-être quelqu'un a besoin d'un nouveau départ. Ouais, mais je me suis converti. Ouais, mais des fois, comment dire ça? Même si ce n'est pas trop théologiquement correct de parler comme ça, il y a besoin d'une reconversion, d'un nouveau départ. Vous savez quoi? On va prier. On va prier, allez. Hein? Vous avez 2 minutes encore, quoi? Laissez le rôti dans le programmateur, il se débrouillera tout seul. Pensez à votre âme. Pensez au ciel, pensez à l'éternité, pensez à votre âme. Dites-vous, est-ce que j'en suis au fait avec le Seigneur? Est-ce que je n'ai pas perdu le cap, perdu de vue l'objectif? Seigneur, Seigneur, si besoin est, il faut vraiment que je me reconsacre, il faut vraiment que je me recentre. Seigneur, je viens ou je reviens à toi, fais-moi grâce. Je veux aller jusqu'au bout, je veux être comme Enoch. Il marche.